Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le Gratin Alexandre Mars, multi-entrepreneur, philanthrope et auteur français. Si vous souhaitez le contacter, vous pouvez d'abord vous rendre sur le site de sa fondation Epic ou via ses réseaux sociaux et en particulier LinkedIn et Instagram où vous le trouverez tout simplement sous son nom, Alexandre Mars. Vous allez voir qu'Alexandre est une personnalité à part. Entrepreneur, homme d'affaires, il a mis sa vie et sa carrière au service des autres. Après avoir lancé son premier business à 17 ans, il se rend compte que l'argent, que la réussite sont un moyen et non une fin. C'est pour cela qu'en plus de ses activités entrepreneuriales, il lance Epic et partage énormément de contenu via ses deux podcasts, Contre toute attente et Ose, ou via des livres, et notamment le nouveau, qui s'intitule également Ose. Je vous mets en tout cas tout ça, et tous les liens vers ses supports dans les notes du podcast et sur le blog du Gratin. Dans cet épisode, j'ai fait le choix de demander à Alexandre une sorte de cours d'entrepreneuriat, vous allez voir. On a repris son livre Ose et les chapitres qui m'avaient le plus marqué pour qu'il les explicite. On a parlé de comment trouver la bonne idée, des questions de timing et comment interpréter les signaux faibles pour lancer son business pile au bon moment, pas une heure avant, pas une semaine avant, mais exactement quand il faut. Troisièmement, pourquoi l'entrepreneur doit regarder en face et assumer ses faiblesses, hyper important. Et enfin, la question du financement d'un projet, un sujet que vous abordez très souvent et que vous me posez comme question régulièrement. Mon seul regret dans cette histoire, ne pas avoir eu plus de temps avec Alexandre pour retracer son parcours en détail ou creuser certains aspects de sa vie personnelle également très intéressante. Peut-être pour une deuxième discussion. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Alexandre Mars. Salut Alexandre et bienvenue sur le podcast.
Merci de m'inviter Pauline.
Écoute, je suis ravie de te parler, j'ai 1000 questions pour toi et on a déjà pas mal discuté par le passé, mais cette fois je voulais vraiment entrer dans le vif du sujet de ton livre Ose qui est sorti il y a peu de temps. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer Alexandre pourquoi tu as écrit ce livre? Toi qui es entrepreneur finalement, t'es pas auteur à la base, donc qu'est-ce qui t'a donné cette envie?
La genèse du projet, en fait c'est un bouquin que j'aurais aimé avoir il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dès ma première entreprise. Et c'était la demande de pas mal de gens qui me posaient la question, et qu'est-ce que je dois faire là? Quelle est la position qu'on devrait prendre? Et t'as exactement les mêmes questions souvent. Et je me suis dit, tu sais quoi? C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, et c'est parfois les mêmes réponses qu'on doit donner. Et donc, l'objectif d'un entrepreneur, c'est quand même de partager. Et là, je me suis dit, autant que je partage ce que je sais, et ce que d'autres gens vont pouvoir aussi partager. Donc, je suis allé voir une trentaine d'entrepreneurs et j'ai mis tout ça dans ce bouquin qui est une sorte de guide, hein. Un guide pour que si tu dois te lancer, tu saches qu'il y a un copilote. C'est un peu le...
Ouais,
voilà, tu fais décoller l'avion, et ben, t'as besoin d'un copilote qui va et tu vas checker absolument tout ce qui doit être à peu près correct avant de te lancer.
Bah, hyper intéressant. Et alors, du coup, je l'ai lu. Et puis, juste avant
c'est sympa, merci.
Non, mais c'est normal. Et ensuite, évidemment, en prévision de cette interview, je me suis replongée dedans. Si ça te va, je te propose de descendre quelques passages que j'ai trouvé particulièrement intéressants ou marquants et qui, je pense, pourront aider justement des personnes qui se lancent. Donc, pour commencer, en fait, j'ai beaucoup aimé le premier chapitre, en fait, qui est sur l'idée.
Pas.
Exactement, sur l'idée. Parce que mille et une personnes me posent tout le temps cette question de comment trouver l'idée. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse évidente. Et j'ai trouvé que ta réponse, enfin en tout cas tes réponses étaient très intéressantes. Notamment, je te lis un petit passage, je te cite. Tu dis donc « La liste de tes idées, Comment font-ils pour trouver des idées? J'ai posé la question à mes amis, des entrepreneurs et serial entrepreneurs, pour certains des boulimiques de l'entrepreneuriat. Je m'attendais à des réponses floues, à des histoires de hasard ou des coups de bol. Ils m'ont donné leurs recettes, qui ont l'avantage d'être reproductibles à l'infini. Alors évidemment, je te laisse pas me dire toutes les recettes de tout le monde, mais peut-être me dire en fait lesquelles toi t'ont le plus marqué ou les quelques recettes justement que tu pourrais nous expliquer.
Déjà, le point de départ, c'est le titre de ce chapitre. Eureka n'existe pas. Comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de gens se disent « je vais me lancer ». Et un an après, deux ans après, trois ans après, ils disent « mais tu t'es pas lancé ». Et les gens disent « bah non, parce que j'ai pas eu l'idée ». Et là, tu dis « mais de quelle idée tu parles ?» Et en fait, souvent les gens, ils ont une vision différente entre l'entrepreneuriat et l'inventeur, ou en tout cas entre inventer quelque chose et entreprendre. Et là aussi, c'est quelque chose que je mets en avant, c'est deux choses, deux concepts différents. T'es pas forcément obligé d'être un inventeur pour être un entrepreneur. Et c'est une grande partie des gens qui disent « moi, j'ai fait surtout une vraie étude de marché. » Une vraie étude de marché, et je me suis posé la question sur ce secteur d'activité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce qu'il existe bien? Est-ce qu'il a été bien développé? Est-ce qu'il y a une niche de la niche qui pourrait être faisable? Est-ce que la taille du marché... Et donc, ils ont rentré tout un tas de critères...
Ouais, de manière assez rationnelle.
Extrêmement rationnelle. Ouais. Et rarement, ils m'ont dit « ah mince !» Il y a déjà quelqu'un dessus. Ben oui. Et d'ailleurs, c'est ce que j'écris. Quand j'ai les gens qui viennent me voir et qui me disent « oh, j'ai trouvé un truc, Alexandre, génial. » Et puis ça tombe bien, il n'y a personne sur l'activité. Eh ben, tu le sais très bien, c'est qu'il n'y a peut-être pas de marché dans ces cas-là. Et donc, en fait, tu te rends compte que vouloir être un inventeur, c'est te mettre déjà une barrière quasiment infranchissable.
Ouais, c'est pas intéressant.
Pauline, quasiment pas infranchissable. Pourquoi? Parce que tu te mets une pression, tu vois, le mythe de Elon Musk. Très peu de gens, il y a une poignée d'Elon Musk par génération.
Oui, et puis il avait déjà pas mal de sous aussi à dépenser pour son idée quand même.
Mais c'est reste un vrai inventeur, quelqu'un qui a réussi à faire plusieurs fois en plus.
Bien sûr.
Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, mais c'est pas que ça. Et l'objectif, c'est de pouvoir justement expliquer, et je l'explique dès le premier chapitre, l'entrepreneuriat est protéiforme. Toi, Pauline, tu es une entrepreneuse qui est différente de moi. Et c'est ça qui est génial, qui va être différente des gens qui nous écoutent ou ceux qui se lanceront après nous avoir écoutés. Et je pense que c'est ça qu'il y a à mettre en avant. En revanche, en effet, il y a toujours des choses qui sont souvent récurrentes. Bien analyser son marché, faire ses études de marché, bien comprendre quelle est l'équipe avec qui tu vas te lancer, bien comprendre ses faiblesses. Enfin, tu as une longue liste qu'il faut quand même faire. Et de nouveau, le bouquin répond à un grand nombre de ces questions.
Clairement. Justement, sur cette idée d'avoir une liste, je trouvais que c'était intéressant. Tu parlais, je crois que c'est l'exemple de Yann Ascoët, de chauffeur privé, slash, qui s'appelle maintenant Captain, je crois. Qui disait, donc lui, il avait fait vraiment une liste d'idées. Et donc, voilà, il a un peu réinterprété le Uber en France, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu trouves finalement intéressant, risqué? Est-ce qu'il faut réussir à l'adapter, cette idée? Enfin, est-ce que ça fait partie pour toi peut-être des quick wins, des recettes justement pour réussir à se lancer quand on n'a pas d'idée?
Exactement. En fait, Yann expliquait, mais d'autres l'ont fait. C'est assez... En fait, après, il y a du storytelling que les gens peuvent dire en disant « j'ai eu l'idée avant les autres ». La vérité, c'est qu'une grande partie de ces projets-là ont été créés ailleurs avant. Il faut juste savoir et se dire, et quand tu prends Yann Ascoët, reprenons l'exemple des VTC en France, ils sont plusieurs, il y a plusieurs Yann qui se lancent à peu près au même moment parce qu'ils ont vu en Californie Uber, Lyft, et ils se sont lancés à peu près au même moment en disant, on va faire les choses, et il y en a très peu qui ont réussi.
C'est
pourtant, ils étaient nombreux au départ. Pourquoi? Parce que Yann, certainement, dans l'implémentation, dans la capacité de comprendre quelle était la spécificité française, a fait les choses d'une manière plus efficace, plus rapide que d'autres, sans lever beaucoup d'argent. Là aussi, c'est un exemple assez positif parce qu'il a fait qu'une levée de fonds. Donc, on voit que ça a été vraiment aussi dans la douleur. Si tu as la chance de l'avoir à ton micro, tu verras qu'il explique que, évidemment, c'est compliqué. Comment on peut imaginer que c'est simple? Mais je pense qu'en effet, moi, ça me fait penser à un autre entrepreneur assez génial qui s'appelle Fabrice Grinda, qui est un peu moins connu ici parce qu'il est parti maintenant il y a 20 ans aux États-Unis. C'est, selon Forbes, le plus grand business angel au monde. Donc, il est français. En fait, il avait fait un truc assez génial qu'il avait réussi à vendre à Bernard Arnault. Quand Bernard Arnault avait à l'époque, c'était en 99, il y a 20 ans de ça, il avait monté son fonds d'investissement. Il avait monté qui s'appelait Oakland.
D'accord.
Et Oakland, en fait, c'était un eBay. Lui, il avait travaillé, il avait fait des études aux États-Unis, il était rentré dans un cabinet de conseil à New York. Il avait fait comme Yann, une analyse assez poussée de tous les secteurs, il s'est dit « Oh, eBay !» Il s'est dit « Ça n'existe pas en France. » Il a monté en 6 mois le eBay, qui s'appelait Auckland, Auction Land, en fait, et il avait vendu ça, une fortune, à Monsieur Arnaud. Et même modèle. Suite à ça, il a fait la même chose qu'il avait fait. Après, il a trouvé un modèle au Japon sur la musique, c'était les téléchargements de musique en 2001, qu'il est allé vendre aux Américains. Et en fait, il a monté plusieurs fois. C'est son modèle, un modèle très d'analyse poussée de quelque chose qui peut fonctionner. Et il l'a fait dans plein de pays différents. Donc évidemment, ça peut fonctionner. Il faut avoir une capacité d'analyse.
C'est ça, et d'exécution.
Et d'exécution exceptionnelle. Mais en effet, c'est une manière de pouvoir répondre à un besoin assez évident.
Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas du tout de jugement. Et je pense que c'est bien parce que très souvent, tu vois, les gens vont se dire « Ouais, mais c'est pas vraiment mon idée, c'est un peu volé. » Enfin, il y a une espèce de culpabilité, tu vois, de, je trouve, pour beaucoup d'entrepreneurs, en fait, à emprunter. Et en fait, je pense que bah, quand tu es entrepreneur, finalement, tu peux puiser l'inspiration d'autres, mais le réinterpréter. Ce qu'a fait Yann avec Chauffeur Prisé Captain, c'est pas la même chose qu'Uber, ils l'ont réinterprété. Et je pense qu'en fait, il faut se dire que le rôle de l'entrepreneur, c'est justement ça, pas de faire forcément, tu vois, une copie exacte du truc. Peut-être que tu peux commencer par ça. Mais
bien
voilà.
Sûr, et tu le vois, un exemple d'une entreprise que toi et moi, on aime beaucoup, c'est qu'il patron. C'est qu'il patron vend du lait. Mais ils l'ont fait d'une manière qui est différente que d'autres. Ils ont dit, bah, nous, on va mettre en avant le fait qu'on va payer correctement les producteurs. Et ils vendent du lait, Pauline. Donc, il y a quand même un truc assez c'est basique. Clair. Et pourtant, en 3 ans, c'est devenu la première marque de lait vendu en France. Donc, évidemment, n'essayons pas d'inventer, de réinventer la roue, d'imaginer quelque chose que les autres n'ont pas forcément imaginé. Parce qu'à la plupart du temps, c'est pas le cas. Et tu continueras à espérer qu'un jour prochain, il arrivera quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, la pomme qui tombe sur, sur Newton.
Ouais, l'humilité derrière voilà, ça.
C'est quand même, moi, j'en connais peu, hein. Mais quand tu les connais, c'est ces inventeurs-là, c'est pas ça. Et de nouveau, c'est peut-être l'idée qu'on avait il y a 10 ans, il y a 5 ans de l'entrepreneuriat. Bah, c'est plus ça. C'est, ou c'est pas que ça. Ça existe. T'as peut-être envie de monter une entreprise unique qui va lever des millions ou des dizaines ou des centaines de millions, qui va être introduit en bourse. Ce bouquin, il va parler à ces gens-là. Mais ce livre, il est aussi pour les gens qui disent « Mais tu sais quoi ? Moi, c'est pas que ça. Moi, j'ai envie de trouver la liberté grâce à mon entreprise. J'ai envie de trouver une balance de vie grâce à mon entreprise. J'ai envie de rester en province grâce à mon entreprise. » Ça aussi, c'est à mettre
Bien
en avant.
Sûr. Complètement. Alors, deuxième question, toujours dans le livre, c'est sur le timing. Là aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et notamment, en fait, quand tu parles des signaux faibles. Je te lis un petit passage. Donc, je crois que c'est le deuxième chapitre. Et tu dis à un moment, « Ces signaux faibles sont pourtant ton épée de Jedi. Les identifier, les reconnaître, t'octroie le pouvoir de voir avant les autres, la seconde d'après. De répéter les tendances à peine émergentes qui, dans un mois ou un an, se transformeront en un raz-de-marée. D'être le premier entrant, ou au moins le premier à occuper une niche spécifique sur un marché donné en développant un service ajouté qui fera toute la différence. » Et là aussi, je trouve ça super parce qu'on sait que le timing, c'est absolument clé quand on lance sa boîte. Mais finalement, je voulais te demander, au-delà peut-être de m'expliciter un petit peu ce que tu as voulu dire en fait en me parlant de, ben voilà, de ces signaux faibles et de cette question de timing, pour toi, en fait, comment est-ce qu'on fait justement pour repérer ces signaux faibles? Parce qu'on a tous envie de réussir à les repérer, tu vois. Moi, j'ai envie de savoir quelle est la prochaine bonne idée, la prochaine crise, tu vois. Mais c'est quand même pas évident. Donc, peut-être aussi toi, personnellement, quels sont tes outils de veille? Enfin, comment tu fais pour t'organiser pour ça?
Alors, t'as des choses qui vont être très rationnelles. Donc, apprendre, lire, être dans les newsletters, mais... En fait, la première chose qui, moi, est utile, en tout cas dans ce que j'ai pu monter et ce que je continue à créer, c'est écouter les gens. Alors, ça va te paraître assez simpliste, et ça l'est, mais globalement, souvent, je dis à un entrepreneur, c'est une éponge. C'est que ni toi, ni moi, ni personne, nous apprenons quand nous parlons, nous apprenons quand nous écoutons. Et c'est là la difficulté, évidemment, quand tu penses savoir, ben, tu sais pas forcément. Et donc, l'objectif à chaque fois, c'est... d'écouter, de comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont spécialiser dans le consommateur, d'autres qui vont se donner dans l'entreprise, d'autres qui vont faire... Et selon, en fait, là où tu es bon à comprendre. Moi, je me suis spécialisé la plupart du temps dans ce que je fais, c'est monsieur et madame tout le monde, le citoyen. Comment il va évoluer, grandir, demander des comptes, écouter de la musique. Enfin, comment nous allons tous évoluer? Et tu le sais, en passant du temps, en écoutant, en posant des questions, et à chaque fois que je peux, je pose des questions, que ce soit à un chauffeur de taxi ou de VTC, au restaurant, et j'écoute. Et je pense que, et c'est pas très sexy, je dois avouer, Pauline, mais voilà, je suis, tu es, nous sommes des éponges. Et c'est ça qui fait qu'on va prendre, et puis on va se dire, tiens, ça c'est extrêmement intéressant.
Et à quel moment tu te dis ça, justement? Ou est-ce que tu as un exemple peut-être d'une fois où tu t'es dit, là je sens une nouvelle tendance, je sens un truc, il faut... Ou peut-être que quelqu'un t'a raconté, tu vois, un moment de signaux faibles comme ça, où tu dis, là je sens que le timing commence à être bon.
Mais tu vois, quand je crée ma dernière entreprise, Epic, qui est une plateforme qui lutte pour les jeunes les plus défavorisés, quand je crée cette entreprise, il y a un peu plus de 5 ans de ça, je passe vraiment 2 ans à faire une étude de marché. Alors, je dirigeais d'autres entreprises, mais dès que j'avais un peu de temps, en parallèle de ce que je dirigeais, j'allais voir les gens, je dis, mais raconte-moi, toi, entrepreneur social, toi, travailleur social, toi, homme et femme politique, toi, femme et homme d'entreprise, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe et comment c'est possible qu'il y ait aujourd'hui une si grande déconnexion dans notre société entre ceux qui ont et ceux qui souffrent. Et de nouveau, j'ai pris des notes, littéralement, comme un journaliste qui écoutait, qui posait des questions et qui surtout écoutait, tu vois, qui posait une question et puis j'entendais. Et à force d'entendre tous ces échos et voir les gens au quotidien qui me disaient, mais ça me va de moins en moins. Et t'as raison, c'est là où je voyais apparaître évidemment un mal-être, mais plus que ça, des gens qui disaient, tu sais quoi, moi je suis prêt là à ne plus travailler pour cette entreprise. Pardon. Je suis prêt là à plus acheter un produit. Et là, on est il y a 5 ans, 4 ans. Ouais. Et donc de ça, j'ai dit, tiens, d'un côté, il y a un vide qui se crée. D'autres, tu commences à voir de plus en plus. Et à l'époque, c'était plutôt les jeunes. Plutôt ceux qui sortaient d'école, qui disaient, mais moi, on est différent. Et ça, c'est aujourd'hui répandu sur toutes les générations en disant, mais pourquoi ? C'est quoi, toi, Pauline, ta mission ? Pourquoi avoir une marque comme t'as avec Gémio ? Pourquoi faire ces podcasts ? Pourquoi ? Et donc, et à un moment ou à un autre, on faisait les choses sans se poser ces questions-là. Et pendant longtemps, hein, c'était le cas. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est mis ensemble qui fait que je l'ai compris en passant, en gros, plus de 2 ans sur le terrain. Et de ça, d'ailleurs, pour aller plus loin que ça, quand j'ai vendu mon avant-dernière entreprise, on a, avec ma femme, sorti nos enfants du système scolaire pour se rendre compte, pas uniquement en Europe de l'Ouest aux États-Unis, mais on va dire, mais on va aller dans tout un tas d'autres endroits sur la planète pour dire, et toi, comment ça se passe ? Toi en Chine, ou toi au Chili, ou toi en Australie, parce que c'était extrêmement intéressant. Et c'est tout ça qui a fait que j'ai créé Epic en disant, mais il y a un monde qui ne se parle plus, ce monde qui détient et ce monde qui souffre. Et pour arriver à avoir une vraie connexion entre les deux, ben, c'est dans un monde de solutions. Et que aujourd'hui, on est dans un monde de solutions et on a oublié de développer ou d'offrir ces solutions. Et c'est pas si compliqué que ça. Et c'était juste à bien écouter ces deux mondes en disant, bah, on peut créer des passerelles, des ponts entre ces deux mondes.
Mais c'est vrai que c'est assez fou quand tu le dis, parce que je pense qu'on a du mal à se projeter, mais il y a 5 ans, tout ce qui était problématique RSE, etc., c'est des choses qui existaient, mais on en parlait quand même beaucoup moins. Maintenant, on a l'impression que c'est notre quotidien, si tu veux, quand on est en France et qu'une entreprise, si jamais elle n'a pas, tu vois, une entité RSE, bah, en gros, elle est complètement à la masse. Mais effectivement, et là où bah, je te salue d'avoir vraiment réussi à écouter les signaux faibles, c'est qu'il y a 5 ans, c'était quand même hyper précurseur, enfin, assez clairement.
Et ce qui est absolument génial, c'est quand aujourd'hui, ça devient, comme tu dis, quasi mononormatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux travailler dans une entreprise, une de tes questions, ça va être, mais c'est quoi votre mission ? Qu'est-ce que vous faites vraiment ? Et on ne dit pas juste un chèque à la fin de l'année. Comment tu insères ça dans ton modèle ? Et ben, en effet, il y a 5 ans, ce n'était pas forcément un sujet tout en haut. Aujourd'hui, c'est un sujet qui aujourd'hui prévaut sur bon nombre d'autres sujets.
Tu as déjà été trop tôt sur certaines choses ?
Je pense que j'ai... Je veux dire, pas trop tôt. Je pense que... on va dire trop tôt et donc j'ai dû m'adapter, ouais. Ou trop tôt où j'ai dû pivoter, ouais. Quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que d'ailleurs un chapitre là-dessus qui s'appelle, toi, où justement c'est une seconde avant les autres. Et cette seconde avant les autres, si c'est une minute,
ouais, c'est une seconde, c'est
exactement,
pas une minute.
C'est pas une minute et c'est pas une heure. Et c'est vrai que quand je suis dans les années 90, en 96 si je me souviens bien, et que je me lance une agence web. Même le terme agence web n'existe pas à l'époque. C'est en face clair. De moi, je me retrouve avec des gens qui parlent que de Minitel. Alors, pour les auditeurs qui ont moins de 40 ans, ils ne sauront pas de quoi on parle. Mais voilà, Minitel, c'était un ancêtre. Et j'arrive, j'ai 20 ans. J'ai les cheveux longs, la barbe. Enfin, j'ai tout contre moi. Et je parle aux gens en disant, le Minitel, c'est fini, l'Internet. Et donc là, oui, je suis trop tôt. Mais trop tôt, en fait, et c'est un peu dans des modèles de crise, où globalement, tu fais vite le dos rond. Trop tôt, tu vois que ça marche pas, tu dois t'adapter, tu dois pivoter. Tu dois dire, attends, là, ça marche pas. Je veux dire, et moi, je pensais, j'étais inconscient, mais c'est ça qui est génial aussi quand on a 20 ans, c'est qu'on peut se permettre parfois d'être inconscient. Et moi, je pensais vraiment que j'avais raison. Et donc, je me dis, mais comment ça faisait que les gens ne m'appellent pas? Donc, j'avais mon agence, j'avais trouvé un nom très bien, j'avais, je pensais avoir tout bien fait. Mais
personne,
aucun client se disait, tiens, ce matin, je me suis levé, j'ai envie de remplacer mon 3615 blabla par un site internet. Et moi qui pensais d'une manière extrêmement naïve que les clients allaient arriver à moi, là, je me suis dit, ok, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'assurer de réussir. Et si je dois réussir, il faut qu'on s'y mette vraiment. Et donc, je me suis dit, ben, il va falloir aller trouver des clients. Et il va falloir convaincre les gens.
Qu'est-ce que t'as fait ?
Et donc, ben, j'ai pris ce qui s'appelait un téléphone. Et à l'époque, ce n'était pas que des téléphones portables. Il y avait encore beaucoup de téléphones fixes. Et c'était juste, ben, on va aller vendre. Et c'est extrêmement compliqué. Tu as 20 ans. Tu vas essayer d'aller vendre des choses. Les gens ne te répondent pas, raccrochent au nez. Enfin, tu es dans un monde, le monde réel, hein, le monde difficile, en disant, je n'ai pas d'autre choix. Si je veux payer les salaires, si je veux développer mon entreprise, il va falloir qu'on arrive à trouver des moyens. Et donc, on est dans ce modèle-là. Donc, oui, trop tôt. Mais d'un côté, toi, j'avais pas décidé de terminer mes études cette année-là et j'allais pas dire, bon, pendant 3 ans, j'attends que ça se passe. Parce que t'espères, et c'est ça qui est beau aussi dans tous ces modèles-là, c'est que t'espères avoir raison. Et c'est le corollaire de avoir raison trop tôt, c'est de savoir aussi débrancher la prise. J'ai souvent des gens et certains amis aussi qui disent, bon, je continue. Et en fait, il y a un moment ou un autre, il faut avoir le courage de dire, peut-être que ça fait déjà 3 ans, peut-être que ça fait 5 ans, mais peut-être que ça décollera jamais. Et là, tu rentres dans un coup d'opportunité. Le fait de pas faire autre chose, tu perds en fait une opportunité potentielle. Et c'est là où il y a un sujet qui est les échecs et accepter l'échec, pas se flageller dos en disant, oh, j'y suis pas arrivé. Moi, je crois vraiment que l'échec, c'est l'une des prémices du succès futur, quoi. C'est que tu apprends, et je pense que si je te pose la question, toi, est-ce que tu as eu des échecs? Toi, tu es parfaite, donc peut-être que tu n'en as pas eu.
Bien sûr.
Mais à part toi, voilà, on a eu. Et moi, pour avoir eu des échecs assez tôt dans ma vie, ça qui était intéressant, c'est que comme je les ai eu tôt, des échecs, rapidement, je me suis dit, oh là, il va falloir quand même que je trouve des solutions parce que sinon.
Ça fait un peu mal, donc j'ai pas envie de m'en prendre trop.
Exactement.
Quoi.
Et donc plus. Et c'est la difficulté, parce que d'un côté, t'as pas envie ni d'avoir des échecs, ni que tes enfants aient des échecs. D'un côté, c'est en ayant être un peu cabossé qui parfois aide à être meilleur.
Quand même, j'aimerais revenir sur un point que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce que tu disais là à l'instant, c'était quand tu parles de débrancher la prise. Il y a énormément de personnes qui se disent ok, mais à quel moment est-ce que je dois la débrancher? Parce que à la fois, tu vois, on est dans un monde où on dit l'entrepreneuriat c'est la persévérance et il faut s'accrocher et il faut faire exactement ce que tu as fait, décrocher le téléphone, démarcher des gens, même si tu te prends 150 noms dans la gueule, continuer. Et tu le dis dans le livre en plus. Mais à l'inverse, de temps en temps, faut savoir dire stop. Et à quel moment est-ce que tu le sais? Est-ce que c'est juste un gut feeling? Est-ce qu'à un moment, tu vois, tu te dis ok, c'est bon, j'en ai marre? Est-ce qu'il faut s'écouter dans ce genre de cas? On en avait déjà discuté, je me rappelle, et tu m'en avais parlé un peu, donc je veux bien que tu partages ça à nouveau.
En fait, je pense qu'il y a le moment entre, tu vois, la vraie bêtise et l'obstination. Et je pense que c'est extrêmement compliqué quand tu es entrepreneur, parce que quand tu mets des mois de travail, si ce n'est des années, quand tu as mis de côté une partie de ta vie privée, des moyens aussi que tu as pu mettre de ta poche ou avoir trouvé de l'argent d'autres, en fait, tu peux pas imaginer dire stop. Et c'est là où tu dois vraiment définir, est-ce que tu as vraiment pivoté? Est-ce que tu as vraiment fait tout ce que tu penses être utile et nécessaire pour réussir? Et parfois, tu n'as pas essayé de pivoter, tu n'as pas essayé de te repositionner.
Tu n'as
pas changé. Donc tu penses que ce que tu imaginais, donc on revient sur l'idée d'éponge, c'est qu'au bout d'un moment, encore aujourd'hui pour moi, quasiment à chaque fois que je sors d'un rendez-vous, je me dis, mais il y a un truc que j'avais pas pensé, ou il y a une question qu'on m'a posée, ou quand une question que tu vas me poser aujourd'hui, ou quand je donne une conférence, je me dis tiens, la réponse, elle était pas si évidente que ça, ou la question que tu m'as posée me fait dire tiens, j'avais pas pensé ou j'avais pas imaginé ça, et donc je vais travailler pour me dire tiens, c'est très intéressant, comment j'aurais pu l'aborder différemment, comment je vais essayer d'être toujours m'améliorer en fait, tu vois, et me challenger. Et donc, on est dans ce modèle-là où le pivot est essentiel. Et je pense que si tu as vraiment pivoté, moi, dans toutes mes entreprises, j'ai pivoté. Hein. Toutes. J'ai vraiment léché l'échec. Hein. J'étais voilà, un pied dans le vide et un pied sur la terre. Et à chaque fois, c'est au moment de se dire, tiens, soit parce que j'ai lancé quelque chose dans les périodes où on est dans les crises financières, dans la crise des subprimes, dans les crises de l'Internet. Il y a des moments où et de nouveau, t'espères, c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que t'es ce passionné, mais à un moment, si t'as pivoté, si tu mets en potentiellement à risque ta vie autre que professionnelle, c'est là où il faut vraiment se poser les questions et avoir parfois le courage d'assumer cet échec. Et je pense que l'assumer de l'échec, en effet, est différemment vu en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, tu le sais très bien, c'est pas uniquement quelque chose qui est dans les livres, c'est réel. Les entreprises ou les gens qui vont t'embaucher ou même les investisseurs, ils vont dire « Oh, Pauline, vous êtes planté une fois, oh, ça nous intéresse encore plus parce que globalement, tu vas pas faire les mêmes erreurs deux fois. Enfin, si tu les fais, c'est que là, il y a un autre problème. » Donc, ils vont aimer ça, ils vont se comprendre. Ici, c'est vrai. Ici, c'est pas qu'en France, hein, c'est en Europe. C'est où oh, et puis, ça va te rester. Moi, je me souviens que parfois, j'entends « Eh oui, alors, telle personne, oui, il y a 20 ans, il s'est déplanté. Et ouais, mais bon, c'est il y a 20 ans. » Et la vie change, et on change, et on peut s'améliorer aussi. Et donc, il y a un côté où je pense qu'il faut arriver, et si on parle en France aujourd'hui, aussi bien à accepter et à endosser le succès comme endosser l'échec.
Complètement. On revient encore sur le livre parce qu'il y a un autre passage dont je voulais te parler que j'ai beaucoup aimé, qui est sur le fait d'assumer ses faiblesses. Et d'ailleurs, le chapitre s'appelle « Assume tes faiblesses ». Et alors, je te relis ta propre plume, Alexandre. Tu nous dis plutôt, tu veux entreprendre, mets-toi devant une glace et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je sais et je ne sais pas faire? Seul face à toi-même, dresse la liste de tes faiblesses. L'exercice est moins évident qu'il n'y paraît. Il exige beaucoup d'humilité pour s'accepter. Dresse aussi celle de tes forces. Tu ne les connais pas toujours et celles que tu aimes faire. Et là aussi, je trouve ça super intéressant parce que quand on est entrepreneur, souvent on est un peu le nez dans le guidon et on rentre un peu dans, on doit tout faire, donc tout autant de l'administratif, parfois coder un site web alors qu'on n'est pas codeur, je crois que ça a peut-être été un peu ton cas d'ailleurs, et voilà ce genre de choses, et au final on prend jamais ce recul de se dire ok, qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, c'est une question aussi que tu poses, et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que t'as en tête en fait en nous parlant de ça?
C'est quoi toi ta plus grande faiblesse quand t'as monté Gemio? Si t'en avais une.
Bah, tu vois, je me suis pas assez posé la question dans ma glace. Mais si, j'en ai plein. Enfin, je pense que j'ai tellement d'espoir et je veux tellement réussir et je veux tellement que ça marche que j'ai tendance à beaucoup minimiser les risques. Tu vois? Ce qui est souvent d'ailleurs le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, après, par contre, du coup, l'avantage, c'est que quand j'arrive face à un problème, j'accepte de contourner la montagne. Mais par contre, j'aurais certainement pu l'éviter un peu plus tôt si jamais je m'étais posé un peu plus de questions.
Et justement, par rapport à ça, est-ce que à l'inverse, tu as eu ton cofondateur qui était comme toi ou qui était l'inverse?
Pas du tout. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est... Alors, je ne dirais pas qu'il est risque averse, qu'il est averse au risque, mais il est clairement très prudent. C'est rigolo parce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps un test qui s'appelle le test SIA, où en gros, ça te dit un peu tes forces et tes faiblesses, enfin, en tout cas, les points forts. Et moi, le premier, c'était l'espoir, hope. Et en dernier, j'avais la prudence. Donc, tu vois,
C'est vraiment ça, quoi. Mais c'est vrai, donc, par rapport à ce que tu dis là, c'est un travail et pas forcément aussi évident à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, et ainsi de suite. Parce que c'est vrai, peut-être que tu as plus d'espoir, ou tu as une vision peut-être un petit peu plus bisounours quand tu en as 20 que quand tu vieillis, potentiellement. Mais ce qui est très important, c'est que pour réussir, en effet, il faut bien connaître ses faiblesses, parce qu'il va falloir trouver peut-être des gens qui vont pouvoir répondre à ses faiblesses. Alors ça peut être ton cofondateur, ça peut être un employé clé, qui va pouvoir faire des choses que tu ne fais peut-être pas très bien. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette image. En fait, si tu mets un diagramme d'un côté sur là où t'es bon et de l'autre côté donc en ordonnée, en abscisse, ce que t'aimes faire. Dans l'absolu, on aimerait tous faire uniquement là où on est bon et qu'on aime faire. Quand t'es entrepreneur en particulier au départ, tu fais les quatre cadrans. Mmh. Tu fais là où t'es bon, où t'aimes faire. Tu fais ce que t'es bon, ce que t'aimes pas faire. Tu fais ce que t'aimes pas faire, où t'es bon. Et tu fais ce que t'aimes pas faire, où t'es pas bon. Ce qui est le pire de tout.
Tu vois.
Et l'objectif de tout entrepreneur, c'est que petit à petit, de s'élever et d'arriver.
Ouais.
Pour ça, il faudra certainement des moyens, du succès. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, si t'es très bon à faire quelque chose, et toi, par exemple, si t'es très bonne à faire quelque chose, et même si t'aimes pas le faire, il y a des risques, ben, que tu le fasses quand même.
Mmh.
Et ben, parce qu'il n'y a pas d'autre choix.
Bien
et sûr. L'entrepreneuriat, il est faux. Aussi, parfois, tu parlais d'humilité, d'acceptation, de dire, OK, ben, j'aime pas faire, mais je vais le faire parce que je suis certainement la meilleure de mon entreprise à pouvoir le faire. Et c'est ça qui arrive. Et donc, aujourd'hui, si tu prenais l'exemple, moi, c'est vrai, assez tôt, j'ai regardé, je me suis dit, mais c'était ma première entreprise, et ma première entreprise, c'était dans la musique.
Mmh.
Et j'ai 17 ans, j'organise des concerts, je suis fan de musique. Mais Pauline, je suis tellement mauvais à la jouer. Tellement mauvais.
Tu t'en rendais compte ou pas?
Là, mais je sais même pas, toi, lire correctement du solfège.
D'accord.
Et pourtant, j'organisais des concerts avec 2000 personnes.
Mm.
Et donc, dans ces cas-là, où on devait sélectionner des groupes. Donc, tu peux imaginer que ça allait être compliqué pour moi de sélectionner des groupes. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un, Jean-Guillaume Cabane, qui est un mec génial, qui était un fan absolu de musique, qui était extrêmement bon. Et on a travaillé ensemble pour justement monter ces concerts. Et de nouveau, j'assume aussi totalement dans l'histoire de toutes mes entreprises tech, il y en a eu un certain nombre, je ne sais pas coder. J'ai réussi à développer plusieurs entreprises tech, dans le web, dans le mobile et dans les réseaux sociaux, sans avoir la capacité d'écrire une ligne de code. Est-ce que c'est grave? La réponse, en tout cas, je ne pense pas. En revanche, j'ai réussi à chaque fois à avoir une direction technique ou des gens qui étaient autour de moi, que ce soit un CTO ou un directeur général, qui avaient la capacité de remplacer ce que je ne savais pas faire.
Mm-hmm.
Donc en effet, c'est un, il faut savoir, parce que si tu penses être bon partout, un,
ouais,
tu risques de te tromper, parce que moi, à part des robots, et encore une fois, il leur manque aussi un peu de il manque des choses, j'ai rarement vu quelqu'un qui était bon partout. Donc ce qui est chouette, c'est de savoir là où t'es bon, ce que t'aimes faire, et puis trouver des gens qui aiment et sont bons à faire ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu n'aimes pas faire.
Je te pose une question indiscrète du coup.
Vas-y.
Quels sont pour toi tes grands talents et éventuellement une petite faiblesse quand même?
Les grands talents, je pense qu'un talent que j'ai compris assez tôt, c'est arriver à convaincre les gens. Et donc c'est... alors pour le coup, je pense qu'il y a plein de choses que tu peux travailler. Je pense que celle-là, elle est un peu plus innée.
Mm.
Donc, mais ceci étant, il y a des gens qui travaillent, pour arriver à convaincre les gens. Moi, et convaincre les gens, si on parle de manière très, très directe, c'est de vendre.
Mm.
C'est que j'ai compris très tôt que dans le monde dans lequel nous vivons, il va falloir que des gens achètent ce que j'ai à leur vendre. Et que si je ne les trouve pas, ben, j'aurai beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Et donc ça, c'est une vraie qualité. Une autre qualité, mais ça va avec l'analyse correcte de mes faiblesses, c'est que j'ai toujours su m'entourer de gens exceptionnels. Et ben, de nouvelle manière, si je pensais être bon sur tout et capacité de tout faire, et donc exceptionnel parce que je leur laisse aussi énormément de liberté. Donc là, ça rentre sur la confiance. Alors j'étais aussi déçu très rarement. Moi, j'aime faire confiance. Donc peut-être que j'ai eu deux déceptions, mais la plupart du temps, quand tu donnes la confiance, il y a toujours une phrase que j'ai toujours aimée, c'est que tu récoltes toujours ce que tu sèmes.
Mmh.
Et donc en semant correctement ou même en faisant attention à ce que tu sèmes, tu récoltes toujours des choses assez incroyables. Donc c'est vraiment des sujets très forts. Je mettrais même avant la capacité de voir les choses ou la seconde avant les autres. Et puis l'autre qui est, je suis pas sûr que ce soit un talent, Pauline, mais c'est un fait, c'est que je travaille énormément.
Mm.
Donc très tôt aussi, parce que j'ai certainement eu des échecs jeunes parce que je faisais rien, que j'ai compris que c'est pas juste parce que t'es plus grand de l'assemblée ou que tu parles un peu plus fort que les autres que tu réussiras. Il y a un moment ou un autre où ça va s'arrêter, on va dire juste tu me réponds pas à ces trois questions là tu passeras pas. Et donc voilà, je travaille. Donc ça, c'est une capacité de travail qui est assez forte. Ouais. Défaut, parce que ça t'intéresse ou pas?
Tout à fait.
Défaut, mais
faiblesse, défaut.
J'ai l'impression d'être en entretien d'embauche. J'espère que t'as un job après chez Gémio. Hein.
Écoute.
Défaut, c'est assez marrant parce que j'écris, pas à l'inverse, mais j'écris que c'est un sujet très important. J'ai du mal où j'attends parfois la dernière seconde avant de me décider.
Ah ouais.
Et pourtant j'écris qu'il faut prendre des décisions. Donc
ouais.
J'adore prendre des décisions parce que c'est un modèle important d'entrepreneuriat. Mais Exemple, si je dois aller à l'étranger, je vais attendre vraiment le dernier moment pour dire bon, ça va être le mardi ou le mercredi, parce que en fait, c'est pas que j'hésite, c'est que je me dis il y a peut-être quelque chose qui va arriver entre temps, où je sais qu'il ne va pas que j'aille soit le mercredi et le mardi, et donc en gros, c'est toujours être toujours en train d'écouter ce que le monde aux alentours va pouvoir changer dans un agenda, en particulier sur l'agenda. La vérité, c'est en particulier sur l'agenda où je sais que je rends fou mes équipes parce qu'à chaque fois c'est mais alors Alexandre, et comme il y a quelques demandes, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc c'est pas de la procrastination, c'est toujours en train d'attendre. Dire voilà, il devrait peut-être encore attendre un peu, et puis au dernier moment c'est bon là, il faut comme se décider, Alexandre.
Et ça, Alexandre, cette crainte un peu du coup d'opportunité. Que je relate complètement, c'est quelque chose dont tu souffres ou pas, le fait de justement toujours te dire je veux maximiser, tu vois, je veux maximiser ce choix, cette décision, qui est, je pense, un vrai sujet à l'heure actuelle pour beaucoup de gens. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ton conseil là-dessus pourrait être hyper fort.
Ouais, je pense que c'est, on va pas dire que c'est une souffrance quand on voit les vraies souffrances que des gens peuvent avoir, mais c'est vrai que c'est un. En tout cas, c'est pas efficace. C'est pas efficace parce qu'à la fin, en gros, tu pourrais décider la même chose 2 semaines avant, c'est à peu près la même chose qui arrivera à la fin. Et en plus de ça, tu as un impact négatif sur les gens qui t'entourent. Mmh. Parce qu'évidemment, ça a des répercussions sur absolument tout le monde, qui t'attendent pas. Donc, je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut arriver à travailler si tu l'as. Et tu as raison, tout le monde espère que une décision peut être faite parce qu'il va tout d'un coup avoir un sujet qui va faire que t'as bien fait de prendre ce jour-là, ou plutôt ce jour-là. Mais en effet, c'est quelque chose qui a un impact plutôt négatif sur toi-même. Si ça te fait stresser en plus, et en particulier, ça va faire stresser ton entourage. Donc c'est vraiment pour le coup un vilain défaut.
Vilain défaut. On te le pardonne quand même. Hein. Quatrième sujet, et ensuite on parle du reste parce qu'on va quand même pas parler que du livre, mais bon, vraiment, je le trouve intéressant pour des entrepreneurs, et comme il y en a beaucoup qui écoutent le gratin. Je vais parler de financement, donc quelque chose que tu as beaucoup vécu. Il y a un chapitre qui s'appelle « Comment séduire un investisseur », que je trouve aussi assez fort. Et je voulais te demander, alors j'ai plein de questions, mais d'abord, est-ce que pour toi, il est absolument nécessaire d'avoir des fonds pour démarrer une activité ? Je crois savoir que tu n'en avais pas quand tu as commencé. Et là-dessus, je trouve ça intéressant parce que je sais que le livre s'adresse aussi à des entrepreneurs qui justement n'ont pas de fonds. Et je trouve qu'on est dans une société où on a un peu l'impression que si jamais tu lèves pas 10 millions d'euros, ben en fait, t'es mort. À l'inverse, ben, on voit bien aussi la réalité, c'est que lever de l'argent, ben, c'est quand même très utile et que ça te permet d'accélérer. Donc, je sais qu'il n'y a pas de réponse univoque là-dessus, mais je voulais un peu avoir tes grands principes et pour toi, en fait, dans quel cas de figure il faut lever de l'argent, qui ne doit pas le faire, enfin, tu vois un peu tes idées là-dessus.
C'est vrai que ce chapitre sur comment séduire un investisseur est très lu, on va dire, parce que c'est un vrai sujet pour quasiment tout entrepreneur. Première chose, dans la définition que nous voyons d'un investisseur, c'est de qui tu as vraiment besoin. Et selon ton entreprise, et tu le sais très bien, ça peut être de l'argent de tes proches, ça peut être de l'argent de business angels, ça peut être de l'argent d'investisseurs institutionnels. Et évidemment, ça va pas être la même chose que tu vas proposer, ça va pas être le même moment de développement de ton entreprise. Mmh. Et tu me parlais, moi, de mon histoire. Moi, en fait, j'ai, dans les 5 entreprises développées, il y en a certaines où je suis parti sans rien, d'autres où je suis parti avec quelque chose. Donc, il y a un peu de tout.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est intéressant, et aussi, c'est les gens que j'interview comme toi sur le podcast, sur un podcast que j'ai qui s'appelle Ose, comme le bouquin. Mmh. En gros, c'est comment tu t'es lancé? Qu'est-ce que tu avais au départ? Et que c'est extrêmement intéressant de voir que souvent, les manières dont ils sont financés au départ est une vraie connexion avec leur mission. Prenons l'exemple de Julie Chapon de Yuka.
Ouais.
Julie Chapon de Yuka, elle va dire, moi j'ai levé 800 000 euros. Elle aurait pu lever plus, hein. Mais elle dit, moi mon objectif, c'est pas d'entrer en bourse. Mon objectif, c'est de faire que mon entreprise sera rentable, un impact fort sur le système et la société. Elle se pose pas des questions différentes. Si tu prends l'exemple de Guillaume Lacroix, qui est le fondateur de Brut, eux, ils ont levé déjà, je crois, un peu plus maintenant de 40 ou 50 millions d'euros. Et leur objectif est différent. L'objectif, c'est de faire le plus grand média positif qui existe au monde. Et évidemment, leur objectif, pour arriver à ça, c'est de trouver des financements. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que de nouveau, l'entrepreneuriat, et merci de le préciser Pauline, n'est pas uniquement un entrepreneuriat avec un objectif de lever minimum 10 millions, ou sinon on a échoué. L'entrepreneuriat, il est protéiforme. Il est, si toi tu dois rester à Angoulême, monter ton entreprise, et que tu es très content de rester à Angoulême, et que tu n'as pas besoin de grand financement pour ça, mais génial. Si tu veux en revanche aller à Station F et être la plus grande levée possible qu'il y ait jamais eu en France, ben pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est pourquoi. Pourquoi ? C'est quelle mission derrière tout ça ? Parce que si tu ne la définis pas assez tôt, quel que soit le succès que tu auras, Pauline, il sera inachevé. Et donc, les deux doivent aller ensemble. Et selon cette mission et le développement, tu vas dire, ben, je vais plutôt aller voir... parfois, ça peut être un banquier aussi. Hein. Ça peut être un banquier en disant, c'est une boulangerie, je suis artisan, et là, ce sera plutôt un banquier. Mmh. Et d'autres, ça va être... Donc, la définition est assez importante. Après, et nous, d'ailleurs, je le précise dans le livre, moi, j'ai mis en avant les critères que mon fonds d'investissement prend quand il doit sélectionner des dossiers et soutenir des entrepreneurs. Donc, il y en a 12. Et je définis assez précisément jusqu'où on va. Il y en a un qui est très important, en tout cas, et ça ne va pas t'étonner que je considère très important, qui est justement l'impact social et sociétal. Et pour nous, il est très important de savoir, toi, dans ton entreprise, chez Gemio, c'est quoi l'impact ? Comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu es bicorp ? C'est quoi l'ESG ? C'est quoi la parité ? C'est quoi la diversité ? Quel est ton impact sur la supply chain ? Enfin, toutes choses qui, de nouveau, pendant des années, n'étaient pas forcément un sujet important. Et aujourd'hui, il l'est. Et il est de plus en plus important, il est de plus en plus réel chez de plus en plus d'entrepreneurs.
Mmh. Tu as parlé là à l'instant du podcast, c'est marrant, je voulais t'en parler. Donc, tu en as deux hein, quand même, on peut le rappeler. Donc, et si on parle de... Contre toute attente et Ose. Ouais. Contre toute attente, donc, qui est le nom pour les auditeurs qui ne connaissent pas de l'un de tes podcasts. Donc, merci pour le pun, la blague. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce média audio? J'ai l'impression quand même que tu es sur tous les fronts. Enfin, tu vois, tu as l'Epic qui est quand même très actif, tu as ton activité d'investisseur, tu as le livre que tu viens de lancer et maintenant tu as deux podcasts. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent, comment je fais pour tout faire parce que j'ai deux activités, mais toi, tu n'en as pas deux, tu en as quatre. Donc,
qu'est-ce que tu réponds, toi ?
Je réponds que quand on aime, en fait, on se débrouille et j'imagine que ça va être un peu ça et que je bosse beaucoup aussi, comme
tu
toi.
Bosses tu bosses beaucoup, mais toi, et c'est un point d'ailleurs dans le livre, c'est on a dû faire aussi des choix. C'est-à-dire que toi, qu'est-ce que tu penses que tu as mis de côté un peu ?
Ah, mais moi, j'ai mis de côté énormément ma vie personnelle. Alors, pas ma vie de couple, clairement.
Bah c'est vrai, parce que...
Mais ma vie, j'ai pas d'enfant. Ouais. J'ai une famille que j'aime, mais que je vois peu.
Ton cofondateur et ton mari.
Et donc mon mari.
Les gens le savent, mais c'est quand même c'est utile dans ces cas-là. Au moins, là, tu peux pas le mettre.
Je le vois.
Ou à l'inverse, c'est un peu plus tendu parfois. Mm-hmm. Peut-être pas dans votre couple, mais c'est là que c'est quand même. Moi, je trouve ça impressionnant. J'ai écrit, d'ailleurs, ce que je disais là, j'ai interviewé Bertrand et Mathilde Thomas, qui sont les cofondateurs de Caudalie. Ils sont comme toi. C'est intéressant de voir l'alchimie forte qui existe.
Alors, du coup, pourquoi avoir lancé ces podcasts ? Et puis, deuxième question que je te poserai après, mais je te l'ai dit déjà, c'est. Quel choix t'as dû faire, du coup, pour faire tout ça ?
Ouais. Le centre, le vrai centre de qui je suis, c'est vraiment d'avoir le plus d'impact possible sur les gens en difficulté. Donc ça, il faut que tu comprennes que tout ce que je fais...
C'est la mission Alexandre Marc.
La mission, elle est là. La raison de ce que je fais, la raison pourquoi je suis ici, la raison... Ma raison, c'est-à-dire que globalement, quand j'aurai 80, 90, peut-être plus, je ne sais pas, ans, et que je me dirais, tiens, est-ce que j'ai fait quelque chose dont je me dis, tiens, je l'ai fait, enfin, je peux passer à ce qu'il y a après. Ben pour moi, c'est que ça. C'est au quotidien aujourd'hui de me dire combien de personnes je vais pouvoir essayer d'aider ceux qui sont en souffrance, visible ou invisible, ceux qui sont ici en France ou ailleurs. Donc toute ma vie est centrée par rapport à ça. Et quand tu citais les autres éléments de ma vie, tu mets évidemment ma vie familiale de côté, hein, mais sur ma vie professionnelle, d'un côté, en effet, tu as ce fonds d'investissement qui s'appelle Bliss, qui continue à soutenir des entrepreneurs incroyables, qui sont très aussi drivés par une mission de changer un petit peu leur écosystème. Et donc là, c'est un côté très financier, mais on a besoin, enfin moi j'ai besoin de cette finance pour avoir un impact, pour avoir les moyens de mes ambitions, et je l'ai compris très jeune, que si j'avais cette arête d'argent, et mon objectif c'est pas être le plus riche du village, mais d'avoir les moyens pour faire que, par exemple, Epic n'a aucun modèle économique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait chez Epic, on ne facture rien, c'est-à-dire que quand des gens nous rejoignent, donnent de l'argent à des causes, ben, globalement, on ne prélève rien, parce que je paye les frais de fonctionnement. Mais pouvoir faire ça, il faut quand même le financer.
Bien sûr.
Et pour ça, cette activité-là est une activité importante, parce qu'elle me permet de me donner ces moyens. Et de l'autre côté, tu parlais des livres, des podcasts ou des conférences que je peux donner. Là, c'est l'autre aspect, c'est la communication. C'est que globalement, quand tu fais, il faut aussi savoir le faire savoir, ou quand tu veux pousser des choses ou des idées ou des moyens ou des projets, ben ça s'appelle la communication. Et sur les podcasts que tu mettais en avant, quand je monte le premier, contre toute attente, c'était dans un pays où le plafond de verre existe, et c'est de montrer des exemples de gens qui sont contre toute attente. Alors ça veut dire dans le titre, c'est-à-dire des gens qui, si tu les prends à 1 an, 5 ans, 10 ans, jamais t'imagines qu'ils vont arriver. Donc c'est des gens qui ont très bien réussi, beaucoup de gens qui ont très bien réussi, mais leur montrer pourquoi, comment ils ont fait ça. Extrêmement dur, mais ils sont arrivés. Et pour montrer, parce que toi et moi, on le sait très bien, souvent on rencontre des gens qui nous disent c'est pas pour moi, j'y arriverai pas.
Je
suis la diversité ethnique, sociale, régionale. Et nous, notre objectif, c'est de dire bah, regarde, c'est faisable, ils l'ont fait, ils vont t'expliquer comment. Et Ose, c'est un podcast pour les entrepreneurs, donc c'est une vision différente. Mais ça, c'est aussi de donner un message, c'est de dire voilà, vas-y, lance-toi. Et donc ces deux permettent de balancer justement le travail qu'on fait au quotidien pour changer la vie de ceux qui sont en grande difficulté.
Question difficile, mais je crois quand même avoir une petite réponse parce que tu m'en avais déjà parlé. D'où te vient cette mission de partage, de don, cette mission sincère de vraiment vouloir gagner de l'argent pour aider aussi, tu vois, ouais. D'avoir de l'impact.
Les femmes de ma vie. C'est les femmes de ma vie qui m'ont montré ça. Très jeune avec ma maman. Moi, mes parents ont divorcé. J'avais 3 ans. J'ai grandi avec ma maman et mon frère. À l'époque, hein, les divorces étaient de telle manière que globalement, aujourd'hui, c'est différent. Tu passes la moitié de ton temps avec la maman, la moitié de ton temps avec le papa. Moi, c'était, à part un week-end sur deux avec maman. Et maman est comme ça. Donc, j'ai grandi avec quelqu'un qui dont son ADN, parce qu'elle a souffert quand elle était petite, c'était je vais aider ceux qui sont autour de moi. Et donc, on est en voiture, elle va s'arrêter la voiture quand elle va voir un aveugle sur le côté droit pour le faire traverser la rue. Et quand tu vois ça, quand t'as 6 ans, et que tu vois ta maman qui fait que ça, c'est normal. Et donc, c'est comme ça que moi, très tôt, je me suis dit, je vais faire à mon niveau. Donc, c'était au niveau de ma communauté. Donc, je suis devenu, président de mon collège, du lycée. J'étais en plus très chevalier blanc parce que quand on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, on est plein de bonnes intentions, mais pas forcément bien canalisé. Mais ça, c'était très important. Et puis après, j'ai rencontré ma femme au lycée. Et ma femme, est très similaire. Elle a fait des après ses études, ma femme part directement, quasiment directement, travailler dans un orphelinat en Inde. Et donc, moi, je me retrouve quand même entouré par des gens qui foncièrement comprennent que le monde est certainement plus compliqué. En tout cas, on a un impact où on a quelque chose à créer qui parfois est pas forcément aussi évidente que ce qu'on va t'apprendre à l'école. Donc, pour répondre à ta question de manière très claire, les femmes de ma vie.
Alexandre, le temps passe et je sais que tu es très pressé, donc je vais être obligée malheureusement de continuer sur des questions qui sont... j'en ai plein que j'ai pas pu te poser, mais c'est pas grave, on refera un épisode, qu'est-ce que tu veux. Sur des questions personnelles que je pose assez souvent, que j'appelle un peu le crible du gratin. Notamment, en fait, je voulais te poser une question. Tu as parlé à plusieurs reprises de coups difficiles dans ta carrière, de moments où tu avais eu de décrocher le téléphone. Enfin, ça avait été, tu n'étais pas passé loin de tomber, en fait, de l'autre côté de la barrière, du côté de l'échec. Est-ce que tu pourrais me parler justement d'un échec ou d'un moment difficile que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a appris? Pourquoi est-ce qui t'a marqué? Enfin, un moment particulièrement fort, en fait, dans ta vie de ce point de vue-là.
Ouais, sur les échecs, mais c'est pas forcément échec business, parce que les échecs business, j'ai réussi à pivoter au bon moment, et à voir le précipice de très près. Mais encore une fois, l'échec est assez, c'est assez intéressant, l'échec, parce qu'il est très, un est évidemment très personnel, mais peut-être que pour moi, ce qui est un échec ne le sera pas forcément pour toi et vice-versa. Mais je me souviens de ma première... Donc, je suis fan de sport. Donc, j'en fais beaucoup, j'aime beaucoup ça. Et je me souviens de ma première compétition de judo. J'ai 8 ans. Et je me souviens de ça parce que c'est... Donc, première compétition, évidemment, tu as les gens que tu aimes bien qui viennent te voir. C'est un samedi après-midi. Enfin, tu vois, c'est...
tous tes copains qui sont là pour
t'es là, quoi. Et t'es dedans, les gens du club... Et premier match, première compétition, je perds, mais je perds pas sur un hippon pour si, je sais pas si tu connais un peu le judo, c'est un truc un peu beau, un peu sexy, où tu transverses la salle et, non, pas du tout, je perds sur une immobilisation, c'est-à-dire que quelqu'un s'est mis sur moi et j'ai pas pu bouger. Et ça dure quelques secondes. Et ces secondes-là, elles sont interminables. Parce qu'à ce moment-là, tu regardes à ta droite, tu regardes à ta gauche.
Oui, tu vois ta famille au loin.
Et là, tu vois au loin les gens qui te regardent et qui font, tu vois, avec des gestes. En disant, vas-y, bouge. Ralenti. Et en fait, tu vois ce moment-là. Et puis, t'as perdu. Et c'est vrai que c'est pas grave. Il y a des échecs qui sont beaucoup plus douloureux que ça. Mais ça, c'est des échecs où tu dis, tiens, comment faire? Et c'est quand même assez, c'est bien que ça arrive tôt, mais c'est quand même douloureux. Comme tous les échecs d'ailleurs qui sont dans le sport, c'est parfois des échecs qui sont douloureux, même s'ils sont pas très, ils sont pas très graves. Échec scolaire, pas dans Oz, mais dans le premier bouquin, La Révolution du Partage.
Ouais.
Première page, je dis que je suis né chanceux, mais je suis aussi né chanceux d'être né dans une république qui a accepté que je redouble deux fois. Et j'ai redoublé deux fois ma troisième et ma terminale, Pauline. Et j'ai redoublé et je l'assume. Alors là aussi, celui-là est plus douloureux parce que quand t'es en troisième et que t'as quelqu'un qui siffle en disant, toi là, tu restes là, tous tes potes te barrent au lycée et toi tu restes au collège, t'es quand même, tu vois, c'est pas agréable. Et puis tu dis, cette année va être interminable et tu recommences ça en terminale à nouveau. Donc quand t'as pas compris. Donc ça, c'est assez douloureux. Et moi là-dessus, ce qui est important, vraiment une personne qui m'a vraiment, beaucoup aidé, qui, à mon avis, qui m'a donné une trajectoire différente, c'était mon proviseur de l'époque. Proviseur qui, évidemment, certains professeurs, étaient pas des grands fans de moi, ni de mon travail, ils avaient certainement raison. Et je me souviens que comme j'étais président des élèves, c'était assez compliqué de me virer du lycée. Et je me souviens qu'on était dans le conseil d'administration, le conseil de classe de terminale, j'avais le prof principal qui m'a dit, Alexandre, on va parler de ton casque, tu peux sortir de la pièce. Donc j'étais obligé de sortir de la pièce parce que j'étais délégué. Et après, l'autre délégué d'élèves m'a expliqué que la prof principale et avec d'autres, vous voulez en fait que si je redoublais, ils étaient sûrs que j'allais pas avoir mon bac, ils avaient raison, que je voulais pas que je redouble dans le lycée. Et c'est le proviseur qui leur a dit, vous avez pas compris. Vous avez pas compris qui est ce gamin. Et il est hors de question que s'il redouble, il le fasse pas ici parce que vous avez pas compris ce que ce gamin a vraiment. Et il m'a fait rester dans ce lycée et voilà. Et donc je lui, d'ailleurs, je dédie dans le premier bouquin un remerciement parce que c'est fait partie des gens, les proviseurs, mais les professeurs aussi, hein, tous les gens qui dédient leur vie littéralement aux autres, en particulier dans ce cas-là aux enfants. C'est des gens quand même assez exceptionnels qui arrivent à voir des choses. Et honnêtement, très peu de gens pouvaient voir ça de moi. Et lui, il l'a vu. Il a dit non, je n'accepterai pas. Et comme c'est le proviseur, ça a été accepté. Et grâce à lui, en particulier, j'ai pu reprendre le cours normal de ma vie.
Et ces échecs, Alexandre, que ce soit sportif ou un échec, je peux imaginer très douloureux, parce que quand t'es jeune, en plus, on est assez émotif. Enfin, quand t'es adolescent, quand même, que tous tes petits copains passent à l'école, t'as l'impression d'être moins intelligent. Enfin, c'est quand même pas facile. Est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi-même ou sur, je sais pas, la résilience ou sur le fait qu'en fait on peut se relever? Je sais pas quel enseignement finalement tu pourrais tirer de ces échecs.
Je pense que j'ai pas compris à 8 ans après le judo. La première fois en fait, premier redoublement, rapidement tu comprends que le travail, quoi. Enfin, très rapidement. Mais sauf que t'as pas envie vraiment de le faire, quoi. La vie elle est cool, elle est sympa, il y a des filles. Enfin, tu vois, t'as plein de raisons d'y aller plutôt à la cool. Et puis, de nouveau, c'est plutôt cool, c'est plutôt mieux si t'es un garçon qui est au fond de la classe et qui travaille pas trop, c'est plutôt cool, quoi. T'es que si t'es au premier de la classe, premier rang, premier de la classe.
Bien sûr.
Voilà. Donc, et rapidement, tu te rends compte que cette vision-là est certainement, pas la bonne, et puis que globalement, si tu fais pas plus, c'est une voie de garage, et c'est que globalement, et moi, j'ai eu de la chance à ce moment-là, quand j'ai rencontré ma femme, c'était en terminale. Et ma femme, elle, c'était l'inverse. Elle avait 2 ans d'avance. Donc, et donc, à un moment, tu te dis juste, y avoir un sujet quand même, c'est qu'il va falloir aussi que... Et puis là, c'est de la fierté, c'est dire que c'est pas possible, et puis que la personne que t'aimes, tu veux dire, et donc c'est aussi des rencontres, tu vois, c'est ça aussi le point,
c'est qu'il
y a un moment ou un autre, où, et c'est ça la difficulté, c'est pour ça que nous, chez Epic, on aime aussi beaucoup tout ce qui est autour du mentorat, parce que c'est vrai que la rencontre, la personne qui va te tendre la main, qui va t'aider à voir peut-être des choses différemment que t'as pas vues, ou que tu verras pas, elle est essentielle. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est important aujourd'hui dans un pays, pas qu'un pays d'ailleurs, dans un monde où parfois, si t'es pas un peu aidé, ou si t'es pas
bon de loin,
t'es limité.
Hyper intéressant. Je voulais parler rapidement de vie personnelle, et notamment, tu m'as parlé de sport. Tu m'as dit que t'en as fait beaucoup, donc judo, etc. Sport, alimentation, vie familiale. Globalement, quelle est ta philosophie sur le sujet? Est-ce que c'est des choses qui sont importantes pour toi? T'as l'air très fit, donc j'imagine que oui. Mais quand on travaille beaucoup, c'est souvent un vrai sujet, à la fois de garder un équilibre entre la vie pro et la vie perso, le sport, la santé. Est-ce que tu pourrais me dire, voilà, quelle est ta philosophie sur le sujet?
Moi, j'ai besoin de faire du sport, parce que pour moi, c'est mon déstressant. Donc en fait, tu me verras assez peu me ronger, pas du tout d'ailleurs, ronger les ongles, jouer avec des stylos. En fait, je suis pas stressé en nature, mais en fait, j'ai besoin de sport. Donc je vais faire du sport.
Tu fais quoi?
Je fais des sports de combat.
D'accord.
Donc je fais un sport qui s'appelle le Krav Maga.
D'accord.
Depuis assez longtemps de ça maintenant. Et en fait, je fais à peu près tous les sports que... Donc je cours. Donc ça, c'est simple, je peux le faire à peu près quand je veux. L'objectif, c'est de faire du sport, tu vois, 4 à 5 fois par semaine, donc pas mal, beaucoup. Et mais en fait, j'aime quasiment tous les sports. Le problème, c'est que, et c'est pas un vrai problème, mais c'est que j'adore les sports, mais je suis excellent en rien. Donc donc je sais m'amuser en tout, donc c'est un côté sympa. Et j'en ai toujours en club, hein, j'ai fait du handball, du foot, de l'athlétisme, du tennis, j'en ai fait plein. Et c'est vrai que donc je m'éclate dans plein de sports avec des potes, mais voilà, le rêve d'être un jour voilà aux Jeux Olympiques n'était pas pour moi. Ah, c'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons, pas que, mais c'est une raison, c'est pourquoi je suis allé taper à la porte du à l'époque de la candidature de Paris 2024, en disant tiens, peut-être que si je pourrais pas la faire
au moins
en sportif,
par procuration
peut-être que je peux vous aider un peu, apporter quelques idées
qui seraient
utiles. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir voilà d'être aujourd'hui administrateur ambassadeur là du COJO Paris 2024. Mais c'est vrai que c'est une vraie passion, et mais ça c'est pour moi, et d'autres qui vont méditer, d'autres qui vont voir les choses différemment. Moi j'ai vraiment, et quand c'est difficile, quand j'ai des mauvaises nouvelles, si j'en ai, j'ai besoin justement d'aller
me défouler,
de courir, de taper dans un sac. C'est mon défouloir. C'est vraiment mon défouloir, et j'ai appris à le maîtriser grâce à ça.
Par rapport à la vie de famille, couple ou famille d'ailleurs, là aussi question, quand on travaille beaucoup, c'est pas toujours évident, surtout si ta femme est pas du tout dans une activité d'entrepreneuriat, parfois bah voilà, on comprend pas aussi quand on est le conjoint. Et là-dessus, je sais pas si t'as mis en place des petites choses, enfin si vous avez juste beaucoup dialogué, enfin comment vous êtes organisé.
En fait, on a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a fait des changements familiaux forts quand on part avec nos enfants aux États-Unis, c'est des éléments forts. Quand on fait un tour du monde, c'est des éléments forts.
Ils
donc
avaient
on a...
quel âge
Quand on allait aux États-Unis, ils avaient 6, 4 et 0. Donc, tu vois, vraiment jeunes, ce qui était assez génial. Quand on a fait un tour du monde, ils avaient 9, 7 et 3.
Ouais.
Et en fait, on voyage énormément en famille, beaucoup, ce qu'on aime beaucoup faire. Après, moi, j'ai des choses qui sont essentielles pour moi dans ma semaine. Quand j'ai la chance d'être dans la même ville qu'eux, je veux les coucher. Donc c'est depuis qu'ils sont nés. Mon activité, donc je vais essayer de sortir le moins possible ou vraiment faire le minimum de choses le soir parce que je veux coucher mes enfants, et c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Donc c'est un truc très personnel et ça me prend beaucoup de temps, d'autant plus que maintenant j'ai un quatrième enfant, et donc nos enfants vont d'adolescence à un an.
Ouais.
Donc tu peux imaginer que ça me prend en gros 2 heures facilement tous les soirs, mais c'est essentiel pour mon équilibre. On a monté quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on appelle, on a créé ça quand on est, je partage avec tous les gens qui ont des enfants parce que je trouve que c'est assez génial, et ça s'appelle le Family Monday Dinner. Donc c'est en fait on l'a monté quand on était aux États-Unis, mais c'est le dîner familial du lundi. Comme on a plusieurs enfants, on va prendre le lundi, tous les lundis soirs, un de nos enfants, et on va faire un dîner en tête-à-tête. Donc ça va être,
cool.
Ça va être, mais pas le couple, mais un des deux du couple va prendre un
donc
des
toi
enfants.
Avec
exactement.
Ton premier, ton
et donc,
aîné,
et donc on va leur demander où tu vas aller dîner ce soir. Et donc c'est
génial.
Voilà, c'est des moments où justement tu verrais ça, qui est assez génial, c'est un moment où ils sont ravis en fait, parce qu'ils
c'est vrai qu'ils tournent
à toi. Donc moi je fais attention, donc, et je fais mon maximum. De nouveau, hein, la perfection n'existe pas, et mais en tout cas j'essaye de donner le maximum de temps. Et donc pour faire ça, j'ai limité mes temps de sommeil. Donc en gros, ma vraie faiblesse là-dessus, qu'ils soient à part sur des cernes quand tu me vois le matin, ça sera certainement sur ma capacité à vivre longtemps, hein. Mais parce que je dors très peu.
Tu dors
peu. Parce que mon objectif, c'est de pouvoir essayer de tout faire. Et bien évidemment, il y a un moment ou un autre où il faut...
Donc la fameuse question du choix que finalement
moi,
je ne t'avais pas posée, en fait, c'est le sommeil.
C'est le sommeil. Et donc c'est compliqué, certainement, mais c'est comme ça que je me dis, je fais tout ce qui est... alors peut-être que je le ferai moins longtemps que d'autres, mais en tout cas, ma vie, je la vis à 100%, sans mettre de côté beaucoup de choses. Mais c'est
un sacrifice aussi.
Ouais, évidemment, c'est un sacrifice.
Une maxime ou des mots de sagesse qui t'ont particulièrement marqué, que t'aimerais nous partager, quelque chose dans la vie perso ou pro.
Une maxime ou des mots de sagesse. Après, c'est j'aime beaucoup, mais c'est une maxime qui est demandée là. C'est l'ouverture du bouquin. Les deux ouvertures du bouquin. Sur le premier bouquin, c'était une phrase de l'abbé Pierre. Qui disait l'inverse de la pauvreté, ce n'est pas la richesse, mais l'inverse de la pauvreté, c'est le partage. Et je trouve que c'est tellement juste, quels que soient les moyens que tu as, la capacité de partager le peu que tu as ou le beaucoup que tu as, ça montre quand même une force assez incroyable. Dans celle-là, c'est la phrase de Mandela, qui est une phrase qui s'adapte terriblement bien à toi, à moi, à tous les entrepreneurs. C'est qu'en fait, Mandela qui dit « je n'échoue jamais ». En gros, il a toujours dit « je n'ai jamais échoué ». Soit j'ai gagné, ce qui était le cas quand même, soit j'ai appris. Et je pense que cette phrase-là, elle est quand même assez incroyable, surtout venant de quelqu'un qui a dû souffrir pendant des années quand même pour c'est arriver à gagner, parce qu'il a quand même gagné à la fin.
C'est clair. Dernière question, Alexandre. Les livres ou le livre que tu recommandes le plus, qui t'ont le plus marqué, enfin vraiment qui ont été impactants dans ta vie?
S'il y en a deux ou un.
Tu dis combien? Tu peux en dire 10 si tu veux.
Je pense que si j'en ai deux, un qui est dont je parle un petit peu dans ce bouquin, qui est tu pourrais lire quasiment tous les livres. Enfin, les entrepreneurs pourraient quasiment lire tous les livres de Malcolm Gladwell.
C'est vrai.
Qui est un journaliste d'abord, mais un écrivain canadien qui écrit quand même. En gros, il sort tous les deux ans un livre très documenté, et surtout avec beaucoup de données. Et de tout ce qu'il a pu écrire, il a écrit David contre Goliath, il a écrit Tipping Point, il a écrit des livres assez géniaux. C'est plutôt mieux de les lire en anglais, mais en français, les traductions sont aussi très bien. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Outliers. Il a essayé de définir, ce qui est assez génial, pourquoi les gens réussissent. Alors au début, ça me paraît un peu, mais en fait,
il s'est dit,
et en fait, il s'est dit, je vais prendre plein de personnes différentes et plein d'actifs divins, et je me dis, par exemple, il dit, les joueurs de foot. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les joueurs de foot réussissent ou pas? Et les joueurs de hockey. Donc, il a pris du côté des sportifs. De côté, il a dit qui sont les gens les plus riches depuis l'an zéro. Il a essayé de comprendre pourquoi. Et il a trouvé, avec de la data, des données assez incroyables qui ont fait évoluer beaucoup aux États-Unis la manière dont les parents, faisaient du parenting. Donc, ce bouquin est assez génial, comme tous les bouquins de Gladwell. L'autre que j'aime beaucoup, qui a été écrit bien plus longtemps que ça, c'est le livre Magellan. Donc c'est la biographie de Magellan écrite par Stephen Zweig, donc qui est assez incroyable parce que pour moi il y a assez peu aujourd'hui d'explorateurs. On parlait d'entrepreneurs, on parlait d'inventeurs. Il y a encore certains explorateurs, Bertrand Piccard. Qui est une personne exceptionnelle, et toute la famille Piccard d'ailleurs, au son explorateur, le grand-père a été celui qui a volé le plus haut dans la stratosphère, le père a été celui qui a été dans les fosses des Mariannes, et lui, Bertrand, c'est lui qui a volé à travers le monde sur un avion qui était un panneau solaire. Donc il a fait des choses incroyables, toute cette famille est incroyable, mais des explorateurs, il y en a un peu comme les inventeurs, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est qu'à moi, quelque chose qui me fascine, c'est Magellan qui part en disant moi je vais découvrir l'Amérique, ou je vais découvrir l'Inde, ou je vais, enfin
oui,
tous ces gens-là qui,
à un moment,
qui disent
quoi.
je vais dans vers l'Ouest, suivez-moi et ayez confiance,
il y aura quelque chose.
Et on connaît pas l'histoire de tous ceux qui n'ont rien trouvé ou qui sont morts sur la route, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le monde est un peu plus simple. Alors tu peux dire, tu peux encore aller sur Mars et ainsi de suite, mais c'est quand même limité à un nombre très très faible de personnes. À ce moment-là, tu pouvais embarquer sur le bateau de Magellan en disant, je viens avec toi, on va trouver. Et l'histoire de Magellan, écrite en plus par quand même une personne, un écrivain exceptionnel, est dingue parce qu'on se rend compte, un, la difficulté de lancer, d'aller à un endroit où peu de gens t'attendent, donc c'est peut être intéressant pour les entrepreneurs, mais l'histoire aussi du détroit de Magellan, de l'océan Pacifique, enfin, il explique pourquoi et d'où ces mots viennent, c'est assez incroyable, et je dis pas à la fin, mais la fin est incroyable, de savoir quand il a fait le tour, qu'est-ce qu'il a retrouvé dans une île du Pacifique, enfin, c'est
ça
incroyable,
donne envie, là, l'histoire,
l'histoire est quand même intéressant à connaître encore en plus quand, pour le futur, c'est bien de savoir notre passé, de bien connaître notre passé.
Alexandre, merci mille fois. Si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait en priorité? Où est-ce qu'on te trouve pour essayer de te suivre, de suivre toutes tes très 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 nombreuses activités?
Les réseaux classiques que tu connais parfaitement, LinkedIn est un réseau évidemment fort sur ces sujets-là, Instagram. En fait, tous les réseaux que tu peux utiliser ou que les gens ravis de d'avoir plus en plus de gens qui nous suivent et qui nous soutiennent, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook. Et évidemment, quand on a la chance comme toi d'avoir des invités de qualité, ben les podcasts où on raconte des histoires comme tu fais tellement souvent si bien. Et ça aussi, c'est des sujets importants à partager.
Et donc nous, on est dans un modèle. Ose aussi et contre toute attente.
Exactement. Voilà.
Super. Merci mille fois.
Merci à toi.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment vraiment n'hésitez pas, et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.